Alors, je vous jure, j'ai presque jamais, jamais autant regretté de ne pas pouvoir tourner de vidéo hier matin. J'ai dû quitter l'appartement où j'étais à Lyon et la politique Airbnb ne permet pas de rester suffisamment longtemps pour tout faire. Donc, déménager depuis 4 étages sans ascenseur et en plus tourner et monter une vidéo, c'était devenu très compliqué. Bref, hier, j'étais sur la route de la maison, comme vous pouvez le voir, et j'essayais de me rappeler la chronologie de ce que Trump a raconté sur la guerre en Iran depuis un mois. Ce qui est à peu près aussi facile que de réciter la Bible par cœur, surtout quand on l'a jamais lu. Il faut reconnaître que c'est devenu extrêmement sportif puisque nous sommes passés par plusieurs états. Trump parle de fin de guerre, le marché monte, le pétrole baisse. Trump parle de détruire l'Iran, le pétrole monte, les marchés baissent. Ça, c'est des étapes psychiatriques de marché que l'on qualifiera de classiques et assez logiques. Et puis, après, on a eu les phases de psychotique où Trump parle 2 fois durant la séance et sort des trucs qui veulent dire exactement l'opposé du contraire de l'autre. Oui, parce que je sais que le président américain a écrit un bouquin qui s'appelle « L'art du deal », même si d'après ce que je sais, c'est surtout des ghostwriters qui l'ont écrit. Mais je dois dire que pour un mec qui a écrit un livre là-dessus, donc sur le deal, c'est pas simple de comprendre comment il fonctionne. Puisqu'il est capable de dire qu'il négocie tout en menaçant sa contrepartie en direct sur Fox News. La semaine dernière, le marché était au fond du bac, il était entré en zone de correction, il ne semblait plus vouloir croire ou écouter la moindre des déclarations de Donald Trump, ou en tout cas ne réagissait plus comme il aurait dû le faire aux déclarations du leader maximo américain. On sentait presque la fatigue et le ras-le-bol de la part des investisseurs et des intervenants, ce qui serait plutôt légitime. On commençait même à se dire que Trump avait perdu son pouvoir de persuasion sur le marché. C'était sans compter sur le fait que, visiblement, l'art du deal a dû avoir un tome 2 quelque part. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le vendredi de Pâques, le vendredi saint, le 3 avril 2026.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Imaginez, vous vous réveillez le matin. Trump dit que la guerre est presque terminée, vous prenez votre café et Trump annonce de nouvelles frappes massives. Les marchés ouvrent à 9h30, le pétrole explose, les indices plongent. Et à midi, pendant que vous êtes en train de vous poser 30 secondes pour manger un sandwich ou un smoothie diététique pour compenser votre semaine à Lyon, Trump vous ressort l'exact contraire de ce qu'il avait dit avant l'ouverture. Et là, vous commencez à comprendre un truc. Le problème, c'est pas la guerre. Le problème, c'est le scénario de la guerre. Et le scénario, il change toutes les 24 heures. Et ça, c'est du long terme. Parce que quand je dis toutes les 24 heures, je suis hyper gentil. Bienvenue dans un monde où la géopolitique ressemble à un épisode d'une série Netflix et où Wall Street devient complètement schizophrène. On va être très très clair, parce qu'aujourd'hui, les marchés peuvent gérer une guerre, une crise ou même une catastrophe. Mais ce qu'ils détestent par-dessus tout, c'est l'incertitude totale, le fait de ne pas savoir. Et là, alors autant vous dire qu'on est mais en plein à l'intérieur d'une situation comme ça. Hier, pendant que j'étais au volant, j'ai essayé de me remémorer ce que l'on venait de vivre depuis la fin du mois de mars. Impossible. Bon, en tout cas, pas simple. Et pourtant, on n'est que le 3 avril. Mais si on se rappelle un petit peu, en substance, le 30 mars, nous avons ce que l'on appelle l'ultimatum. Trump donne une semaine à l'Iran pour plier. Il menace de pulvériser les infrastructures énergétiques de l'Iran. Traduction, on négocie gentiment, ça se passe bien, mais on leur met quand même un flingue sur la tempe. Le 1er avril, Trump annonce qu'il a presque gagné et que les USA sont le plus grand pays du monde et que le pays n'a jamais fonctionné aussi bien. Il affirme que les objectifs militaires sont presque atteints, il promet encore 2 à 3 semaines de frappe et c'est plié. Mais par contre, toujours aucun plan de sortie très clair. En gros, la fin de la guerre est proche, mais pour l'instant, la guerre continue. Moins de 24 heures après cette déclaration plutôt conciliante et rassurante, il nous balance un discours ultra agressif. Il parle de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre, il dit que la guerre est quasiment gagnée, mais il annonce en même temps une intensification des frappes. En gros, c'est fini, on va donc taper encore plus fort pour leur mettre la misère une fois pour toutes. Ensuite, dans la foulée, il nous fait un discours télé qui fait paniquer
baisser les marchés. Il promet des frappes massives dans les semaines à venir. Il présente la guerre comme un investissement pour le futur. Résultat, le pétrole explose de plus de 10% et les marchés rebaissent, mais finalement pas tant que ça. Et c'est là surtout le moment où Wall Street commence à se dire « Bon, ok, le mec, il a aucun plan et il est en impro total. » Lors du dernier commentaire en date, il nous a même sorti une phrase incroyable. « Je ne m'inquiète pas des marchés, je m'inquiète des armes nucléaires. » En gros, les marchés sont pas mon problème, mais dans les 3 heures qui suivent, il a quand même répondu à un journaliste en lui disant que tout allait bien parce que les marchés remontaient. On est en plein délire. Enfin, Trump est en plein délire et personne n'a visiblement pensé à lui mettre la camisole de force pour l'instant. Actuellement, si on se base sur les derniers commentaires du président américain, il est en escalade verbale maximale et il menace de frapper les ponts, les centrales électriques avec pour objectif de forcer l'Iran à céder rapidement. On bascule clairement dans la pression totale avec une logique d'escalade. Ce qui est intéressant et un peu flippant, ce que plusieurs médias d'ailleurs soulignent actuellement, c'est une sorte de pattern. Il dit simultanément, on a gagné, ça va s'arrêter bientôt, on va intensifier massivement, pas de plan clair. En fait, c'est exactement ça, une espèce de série de déclarations contradictoires depuis le début de la guerre et le marché qui doit composer avec. Dans les marchés, on a donc bien compris que nous sommes dans un tout grand n'importe quoi, et comme à chaque fois dans ce genre de situation, on est en train de perdre la raison. Enfin, pour autant qu'il y avait encore une raison dans les marchés depuis que Trump est revenu au pouvoir. Si on s'arrête simplement à ce qui s'est passé hier en bourse, on se rend compte assez rapidement que nous sommes en train de littéralement bugger. La bonne nouvelle, c'est que les marchés ont brisé leur série de 5 semaines de baisse. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ce que Wall Street appelle une correction saine et ce que le reste de l'humanité appelle un désastre progressif. Mais bon, pour l'instant, jusque-là, on a survécu. Mais ne vendons pas la peau du bear avant de l'avoir tué. Parce que jeudi, quand même, il faut noter que le WTI a pris plus de 10% dans la journée pour terminer la semaine à 111,54. Ça faisait depuis 1983 et la sortie du film E.T. qu'on n'avait pas vu une hausse du baril de cette ampleur. La raison, encore une fois, c'est le détroit d'Hormuz, encore et toujours. On connaît l'histoire, 20% du pétrole mondial, blablabla. Détroit qui est toujours bloqué parce que les États-Unis et l'Iran ont décidé que la diplomatie, c'est pour les faibles. Je précise, bloqué pour les ennemis de l'Iran, pas pour les autres. Trump a fait un grand discours mercredi soir, et dans ce discours, il a répété exactement la même chose qu'avant. Pas de plan, pas de sortie de crise, pas de réouverture du détroit. Je crois que je vais quand même relire une nouvelle fois l'art du deal parce qu'il y a des trucs que j'ai pas dû comprendre. Le marché, lui, qui espérait vaguement une lumière au bout du tunnel, a reçu en réponse une belle photo de tunnel, mais sans lumière. À un certain moment, hier, le Nasdaq perdait 2,2% durant la séance. Et puis les marchés se sont ressaisis, bon, pas parce qu'il y a eu une bonne nouvelle, hein, mais juste parce qu'ils ont arrêté de paniquer, et le S&P 500 récupérait quand même 0,1% en fin de journée. C'est moralement le signe d'un peuple épuisé, ou alors qu'on en a juste mais marre à un point inouï. On termine donc la semaine en limitant la casse sur les marchés financiers. Les plus optimistes diront qu'ils étaient à la recherche des bonnes affaires et qu'ils pensent que les chiffres de l'emploi de tout à l'heure seront meilleurs que prévu et montreront une économie solide. Bon, c'est vrai que quand on voit le niveau de manipulation de ce marché qui donne la part belle à ceux qui sont mieux informés que les autres, en gros, le cercle privé autour du président, il ne serait pas étonnant qu'on nous sorte des chiffres fantastiques, tout ça parce que le patron du BLS, lui aussi, il a un flingue sur la tempe. En gros, cette semaine, les marchés ont arrêté de baisser. Moi, j'appellerais plutôt ça reculer pour mieux sauter, parce que on pourra me dire ce qu'on veut, il y a un truc qui bloque quand même au milieu de tout ça, c'est que le WTI, le pétrole, est à 111$. Avant, on disait au-dessus de 100, c'est récession assurée. Maintenant, on dit la récession, c'est beaucoup plus tard, 150$. Les experts disent tous que ça peut aller à 150$ si le détroit reste bloqué encore 6 semaines. Mais ça, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que les gens regardent les indices et oublient le pétrole parce que tout le monde est plutôt convaincu qu'Hormuz finira bien par rouvrir un jour. Et en attendant, eh ben, il faut anticiper les jours meilleurs. Alors, si j'en crois à l'analyse actuelle qu'on fait du marché, nous sommes en train de fonctionner exactement comme on l'a fait quand Powell a fait son pivot il y a 3 ans en arrière. On a commencé à monter en anticipant les baisses de taux à venir. Et on le faisait encore il y a 3 mois. Autant dire que monter en attendant que le détroit rouvre et que le pétrole rebaisse, ben, ça peut durer un moment. Sauf qu'avec Trump qui souffle le chaud et le froid, ça peut encore aller dans tous les sens à la vitesse de la lumière. La VIX s'est calmée, le Greed & Fear est remonté à 19 et on a moins peur. Pourtant, rassurez-vous, rien n'a changé. Mon Golden Retriever de 2 ans est bien plus gérable que Trump. Et le pétrole continue de faire hyper mal aux consommateurs. Pour l'instant, on fait comme si ça allait redescendre tellement vite qu'on sentira pas la différence, mais faites-moi confiance, si le baril reste au-dessus des 110 pendant trop longtemps, il y aura du sang sur les murs. C'est comme ça. On peut rien y faire. Ça va se payer un jour. Et alors, pendant ce temps-là, le private credit continue de faire parler de lui. Bon, alors, techniquement, tout le monde s'en tape. Vous avez le pétrole à 111$, Trump qui fait des discours en boucle et les marchés qui ont souvent envie de vomir. Mais je vais en parler quand même parce que là, c'est presque marrant. Donc, Blue Hole, un des plus gros fonds de private credit du monde, 36 milliards de dollars sous gestion et des clients qui veulent récupérer 20% de leur mise d'un coup. Sur les fonds tech, c'est 40%. Ils ont bloqué les sorties à 5% par trimestre. Des milliards sont coincés et des millions de gens veulent sortir leurs milliards. L'action a donc chuté encore de 8,7% hier. Le titre est au plus bas de tous les temps. Il a perdu 70% de sa valeur depuis début février. Début février, douce époque où l'on parlait encore des fonds d'Amoto et d'intelligence artificielle. Et hier, Blue Hole a envoyé une lettre à ses actionnaires dans laquelle ils appellent ses rédemptions, accrochez-vous bien quand même, une petite minorité dans certains canaux de distribution. 40% de demandes de rachat, c'est petit minorité. Ces gens-là devraient faire présentateur pour la météo. Le meilleur, c'est le co-CEO qui a eu un moment de lucidité assez rare et il a dit, je cite plus ou moins, « Entre nous et les conseillers qui vendent nos produits, on n'a pas rendu clair que le crédit privé, ça ne se rachète pas comme un ETF. » Traduction, on a vendu de l'illiquide à des gens qui croyaient acheter du liquide. Et maintenant, on est surpris qu'ils soient surpris. C'est un peu comme vendre des billets de train pour un trajet en bateau et s'étonner que les gens aient le mal de mer. La toute grande classe. Résultat, avec un plafond à 5% par trimestre, il faudra mathématiquement 2 ans pour purger la file d'attente des gens qui veulent sortir leurs capitaux. 2 ans. 2 ans, en espérant que personne ne rajoute de demandes en plus. Ce qui, au vu de l'ambiance géopolitique et économique actuelle, c'est un pari des plus, comment dirais-je, créatifs. Mais que l'on se rassure, tant que Trump fait écran de fumée, on ne va pas se prendre la tête avec ça. Mais au moins, je vous aurais tenu au courant, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, la question du jour est la suivante. Pourquoi est-ce que le WTI est donc ce matin plus cher que le Brent? Eh bien, parce que Trump a inventé la pompe à pétrole verbale. Oui, fait historique, le WTI clôture au-dessus du Brent pour la première fois depuis mai 2022. 111,54 contre 109,03. Le monde se rue sur le pétrole disponible maintenant aux USA, loin du Moyen-Orient. Ce qui, par un hasard géographique purement providentiel, arrange énormément les producteurs américains. Trump l'avait senti, acheter américain, on en a plein. C'est presque churchillien. We shall sell them on the beaches. Sauf que le grand discours de mercredi soir n'a strictement rien apporté. Trump a dit qu'il allait frapper l'Iran extrêmement fort dans les 2 à 3 prochaines semaines et que les prix allaient rapidement redescendre, sans donner pour autant plus de détails. Le marché qui espérait un plan a reçu un horoscope militaire, résultat plus 11% sur le WTI en une journée, record de hausse depuis 83, on en a parlé. On bat des records de l'ère Reagan parce qu'un président a fait un discours pour ne rien dire. Il faudrait pouvoir breveter ce qu'on vient de vivre, ça finira peut-être un jour dans un bouquin d'économie. Une ministre britannique a d'ailleurs déclaré « L'Iran prend en otage l'économie mondiale ». Sans blague, en 24 heures, 5 navires ont transité par le détroit d'Hormuz contre 150 en temps normal. C'est pas un blocus, c'est une fermeture administrative et quelques heures après le discours de Trump, l'Iran a tenu à préciser que ses capacités militaires étaient complètes et intactes. Non mais bien sûr, on nous prend pas pour des cons, tout va bien. Mais c'est surtout le genre de communiqué qui ne fait pas baisser le pétrole. Les prix à la pompe ont déjà bondi d'un dollar par gallon en un mois, le S&P 500 perd 4,4% depuis le début du conflit, et Trump promet que ça va mieux, en tout cas que ça ira mieux. En attendant, l'Iran, lui, dit non. 5 bateaux qui passent, le pétrole qui flambe, personne ne s'inquiète, parce que ça va rebaisser, un jour. Je suis rentré à la maison, le pétrole est à 111$, Trump fait des discours qui veulent dire le contraire de ce qu'il a dit hier et l'avant-veille, l'Iran dit qu'il se porte super bien, quelques bateaux passent par le détroit d'Hormuz, Blue Hole essaye de nous expliquer que 40% de rachat, c'est une petite minorité, et les marchés ont décidé que finalement, tout ça, c'est plutôt bien gérable. Et vous savez quoi? Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que dans 6 semaines, le détroit sera rouvert, le pétrole redescendra à 80$, Trump déclarera victoire, évidemment, et tout le monde fera semblant que rien ne s'est passé. C'est possible, c'est possible. Les marchés ont une capacité d'amnésie collective qui forcerait l'admiration des psychiatres les plus pointus de la planète. Mais dans le cas contraire, Dans le cas où le baril reste au-dessus des 110 jusqu'en mai, dans le cas où les NFP de cet après-midi déçoivent, dans le cas où Trump sort un nouveau discours ce week-end depuis Mar-a-Lago entre deux parties de golf pour nous annoncer qu'en fait non, la guerre va durer encore 6 mois, là, le lundi de Pâques risque d'être beaucoup moins festif que prévu. En attendant, les marchés sont fermés, les cloches veillent sur vos positions et Trump prépare probablement son prochain tweet. À 14h30 aujourd'hui, les États-Unis publieront leur rapport sur l'emploi du mois de mars, le jour où les marchés sont fermés et où personne ne peut rien faire avec l'information. Très très beau sens de l'organisation. On attend 60 000 créations d'emplois et un chômage stable à 4,4%, ce qui suit un février à moins 92 000 emplois et 5 mois dans le rouge sur les 9 derniers mois. Dans n'importe quel autre contexte, on appellerait ça une récession. Ici, on appelle ça un marché du travail résilient. Oui, vous avez compris, le langage économique, c'est tout un art. Le marché du travail tient debout grâce à un concept génial, ce qu'on appelle en anglais le low hiring, low firing. Personne n'embauche et personne ne licencie. Et le chômage reste bas parce que Trump a simplement réduit l'offre de travail en expulsant les immigrés. Moins de chercheurs d'emploi, moins de chômeurs. C'est logique. On a résolu le chômage en virant les gens qui auraient pu, éventuellement peut-être, devenir chômeurs. C'est efficace, c'est discutable, mais c'est efficace. La Fed de Dallas le confirme. Là où il fallait créer 250 000 emplois par mois en 2023 pour stabiliser le taux, on peut aujourd'hui en supprimer 3 000. C'est un sacré progrès. Et pendant ce temps, la Fed est coincée. Baisser les taux relance l'inflation, ne pas les baisser achève l'emploi. Et elle est l'arbitre d'un match où les deux équipes font tout pour perdre. Bref, on en reparle demain dans Swiss Bliss avec les vrais chiffres de l'emploi qui auront été publiés. Joyeuse Pâques à tous. À l'époque, le tombeau s'est ouvert le troisième jour. Pour ce qui est des marchés, eux, ils auront besoin d'un peu plus de temps. Et souvenez-vous, entre la résurrection du Christ et celle des marchés, il y a quand même une différence fondamentale. Le Christ, lui, a priori, il savait exactement ce qu'il faisait. En ce qui concerne les marchés, c'est moins sûr. On se retrouve demain pour Swiss Bliss, parce que sur la chaîne Swiss Côte en français, on ne s'arrête jamais. En attendant, likez cette vidéo, partagez, commentez. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes 90 756 sur cette chaîne. Merci à tous. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Belle journée. Profitez bien de ce jour de congé pour ceux qui sont en congé. Et on se voit demain. Bye bye.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.